Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast 571, podcast très peuplé aujourd'hui, contrairement aux dernières semaines. Nous sommes 5 et 6, si on compte Poufy, évidemment, la sono qui pouffe de temps en temps seulement dans nos oreilles. Avec moi aujourd'hui, nous avons Thomas,
Coucou les
en
cocos.
direct de la rédaction.
Exact.
Nous avons Rami, en direct de chez
Coucou.
lui.
Oui.
Nous avons Camille, en direct de son loft.
Hello.
Voilà, et nous avons un invité, nous avons Damien, qui est venu nous prêter main forte pendant le 3,
Ouais, nous
et
tous.
qu'on remercie d'ailleurs au passage pour ses coups de main nombreux et très utiles, et qui va donc nous faire l'honneur et le plaisir de partager avec nous ce podcast 571 dédié à le 3. On vous l'avait promis, on va faire un bilan de le 3 et un peu du Summer Game Fest aussi, évidemment, parce qu'il y avait le début du Summer Game Fest au passage. On va vous parler de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, des jeux qui nous ont tapé dans l'œil. Savoir qui a gagné le 3, parce que c'est toujours ça la question, hein. Thomas refuse d'y répondre, mais y a bien, il faut toujours un gagnant à le 3.
Non,
Mais
non.
si, Thomas, il faut un gagnant à le 3, et on se demandera à la fin, évidemment, si c'était finalement une bonne semaine ou si le 3 est définitivement mort, comme certains le veulent. On commence maintenant, évidemment, messieurs, par les tops. Je vais faire le tour de table pour savoir ce qui vous a paru, on va dire, réussi en termes d'organisation, de spectacle. Et autres, sachant qu'on était dans une édition encore une fois très particulière cette année pour le 3, du 12 au 15 juin, c'était pas direction Los Angeles avec des présentations sur scène de la part des constructeurs et développeurs importants, c'était du 100% virtuel. Et pour cette édition, sachant que l'année dernière il n'y en a pas eu, on peut se dire qu'il y a quand même des choses qui ont marché. Damien, tiens, tu vois, on va commencer par toi, étant donné que tu es notre invité, ça fait toujours plaisir.
Bah écoute, moi, niveau orga, franchement, ouais, à la limite, le Summer Game Fest avec Geoff Keighley, mais voilà, en même temps, il a l'habitude, hein. Ceci, j'ai trouvé ça quand même en dessous des Game Awards. Ouais, bon, il y avait des invités cinéma, etc. Les annonces étaient quand même pas dingues. Tu sentais un peu qu'il avait ce que les constructeurs avaient bien voulu lui lâcher, hein. Que c'était, enfin voilà, il n'y avait pas vraiment de truc de premier plan. C'est clairement en dessous des Game Awards. Il n'a pas des grosses annonces comme il a aux Game Awards. Globalement, sinon c'était pas un E3 de ouf hein, quand même. Je sais pas si je suis le seul à
Ah.
penser ça, mais c'était quand même pas folichon,
Ben voilà, le podcast est terminé.
moi.
Merci. C'était donc le bilan. Non, mais après, en termes d'organisation, malgré ce que je veux savoir, c'est que malgré le fait qu'on n'est plus en présentiel, on n'est plus justement le côté spectacle sur place et les interventions des journalistes après qui peuvent parler des jeux. Est-ce qu'on a réussi quand même malgré tout avec ce calendrier qui était très resserré, avec énormément d'événements les uns après les autres, étalés sur plusieurs jours? Est-ce qu'on a quand même réussi à avoir quelque chose de bon? Est-ce qu'on en a quand même retiré quelque chose de bon d'après toi?
Bon, même si après, de toute façon, effectivement, le côté spectacle n'est pas forcément au rendez-vous. Alors, est-ce qu'il y a quand même des bons jeux qui ont été annoncés? On a quand même vu des trucs. Et puis, de toute façon, faut pas non plus se faire d'illusions. EA n'a rien fait, Sony n'a rien fait. Donc, il y avait quand même pas mal de monde en moins aussi. Donc, forcément, bah, ça fait moins d'annonces, ça fait moins de gros jeux qui sortent. Néanmoins, ouais, moi je pense qu'il y en avait quand même un peu pour tout le monde. Je pense que voilà, tout le monde a au moins trouvé deux trois trucs à son goût dans tout ce qui a été annoncé. Après voilà, moi je pense que est-ce que vraiment il y a un retour de l'E3, etc. J'en suis pas vraiment sûr parce que là, les constructeurs ils sont en train de s'apercevoir que depuis 2 ans, faire du virtuel et des présences en ligne, ça marche très bien. Que ça évite tout un tas de risques, genre les couacs de dernière minute, etc. Plus on en parlait tout à l'heure, hein, le fameux YouTuber pendant la confier qui devait présenter un Need for Speed et qui savait plus quoi dire. On peut parler aussi de la BlizzCon, hein, la fameuse annonce de Diablo Eternal, ça s'était pas très bien passé pour eux, et puis finalement on retient plus le mec qui est en train de leur demander si c'est un poisson d'avril que réellement les annonces qu'ils avaient faites à l'époque. Faire du virtuel, ça évite un peu tout ce genre de conneries. Puis la preuve, c'est que Nintendo, ils sont passés là-dessus depuis un moment et ils s'en plaignent pas hein, pour l'instant. Est-ce qu'après, ça vaut encore le coup d'aller payer des vols et des nuitées d'hôtel à tout le monde à Los Angeles? Je suis d'accord que c'était très cool, mais je pense que d'un point de vue économique, les stands à 10 millions de dollars sur le show floor de l'E3 pour quelques journalistes, ou pour quelques journalistes plus le public qui devait venir, c'est pas forcément dingue. Après, en termes d'organisation, je tiens aussi à dire que ça a quand même, je sais pas si vous vous rappelez, les rumeurs sur les plans de l'E3 de l'an dernier, ils faisaient pas rêver, hein. C'était fête des gamers avec des youtubeurs, etc. Moi, j'ai envie de dire, au moins, cette pandémie, ça nous a au moins évité ça. Ça a peut-être remis les idées à l'endroit, à l'ESA, qui organise tout ça. Donc, bon, franchement, c'est, à mon avis, c'est pas une mauvaise chose.
Ah, tu veux ajouter quelque chose, je le sens.
Ah non, non, j'abondais dans le sens de Damien. Bah, du coup, je récupère la parole. Bah, ah, pour le coup, s'il fallait retenir des tops, je vais d'abord saluer, retenir les éditeurs qui ont réussi à nous proposer des choses, en fait, parce que le distanciel, effectivement, c'est sympa, ça permet de voir des trucs, mais ce qui nous intéresse, nous, généralement, et même les lecteurs, c'est de prendre des jeux en main et d'avoir des retours, en fait, dessus. Et là-dessus, on voit bien qu'ils sont très peu nombreux, finalement, à avoir joué le jeu de la vraie démo jouable, de la preview à nous fournir. Du coup, moi, c'est ça que je retiens, c'est ceux qui ont réussi justement à s'adapter, à nous proposer quelque chose. Alors, des hands-on, il y en a eu très peu, on a eu quelques hands-off aussi. On va dire que en termes d'orga, moi, c'est ce que je vais plutôt choisir de mettre en avant finalement. C'est les éditeurs qui ont réussi à s'adapter tant bien que mal, parce que bah, on sait que jusqu'au dernier moment, tout le monde ne savait pas forcément trop sur quel pied danser. Après, en termes d'organisation de conf, moi, globalement, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Comme Damien, pour le coup, je pense que le Summer Game Fest, c'était, enfin, la partie kick-off qui lançait un petit peu de manière prématurée l'E3, c'était la mieux rythmée, la mieux organisée quelque part. On avait, même si c'était pas effectivement que des grosses annonces, on avait quand même une variété de styles, de titres, que ce soit dans les thématiques, l'ampleur aussi, la taille des studios, les ambitions, etc. Et moi, j'aime bien les trucs un petit peu variés comme ça, et je trouve que c'est... Mis à part chez Microsoft, ce qui a un petit peu manqué, puisque les constructeurs nous avaient habitués justement pendant ces grands messes à réunir un petit peu tout le monde, à avoir des world premiers de tel ou tel éditeur, même si on savait qu'on allait revoir le jeu après. Donc je trouve que là-dessus, Geoff Keighley s'est plutôt bien débrouillé, même si ce n'était pas effectivement Megaton. On a quand même eu une variété d'annonces, de surprises aussi, il faut bien le dire. Je pense à un de mes jeux qui sera dans la sélection de fin de podcast. Mais voilà, moi je salue d'abord les éditeurs qui ont réussi, ils ne sont pas nombreux, à nous proposer quelque chose, une vraie prise en main d'un de leurs jeux qui n'est pas encore sorti.
Camille, on va passer à toi.
Ouais, moi j'ai trouvé que la conf la mieux rythmée c'était celle de Xbox, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de jeux finalement que beaucoup de gens attendaient. On a vu Starfield notamment, c'était quand même un gros morceau du jeu vidéo qu'on savait quasiment rien dessus, même après la vidéo. Honnêtement, on n'était pas nombreux à savoir de quoi il en retournait. En fait, on a dû attendre un tout petit peu plus le lendemain pour savoir si c'était effectivement un RPG, que c'était effectivement un monde ouvert, etc. Mais en fait, la vidéo, on n'a pas donné tant d'infos que ça, mais c'était l'occasion de pouvoir palper la chose, si je puis me permettre l'expression. Sinon, il y avait aussi pas mal de jeux qui sont hyper attendus. Bah, exemple, Stalker 2, on en reparlera plus tard. Mais on a pu voir du gameplay et puis surtout des surprises... et des jeux très attendus, genre style Forza Horizon. Je pense que c'était vraiment la mieux rythmée des conférences. C'est celle, en tout cas, où à aucun moment, je me suis dit « Ah, c'est long, quoi ». Contrairement à d'autres où je me suis dit « Ils auraient dû couper à certains moments », là, en fait, c'était un rythme effréné. En même temps, chaque jeu avait le droit à son quart d'heure de gloire et avait quelque chose à raconter. Donc, c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant.
Il y avait le côté spectacle qui manque, ouais, d'habitude, qui aurait pu manquer normalement, qui était bien présent, lui, tu penses, dans la partie.
Ouais, ouais. Bah, par exemple, pour faire un contrebalancement, par exemple, le PC Gaming Show, c'est totalement l'inverse, dans le sens où c'était hyper préparé et c'était un peu un truc à sketch qui était du coup raté. Je sais pas si vous l'avez pas tous vu, mais en tout cas, oui, c'était vraiment une.
Non, parce que je pense qu'un truc avec Frankie Ward peut pas être raté, personnellement.
Ouais.
Mais ça, c'est mon avis. Hein.
Ça, c'est parce que t'as pas encore joué à MechWarrior.
Ah oui, aussi, peut-être.
Mais ouais, t'avais vraiment le côté trop préparé, pour le coup, où c'était vraiment le truc à sketch qui avait été monté et préparé genre une semaine ou deux semaines à l'avance, et ça se sentait vraiment. Le truc Xbox, certes, c'était préparé, mais t'avais le côté chaud qu'on a l'habitude de voir à l'E3, et c'est ça, je pense, qui a plu. Et d'ailleurs... il suffit de voir sur les réseaux sociaux peu de temps après, clairement les gens étaient assez ravis par la conférence Xbox, qui n'était pas forcément le cas par les autres conférences, malgré le fait qu'ils aient trouvé aussi des jeux à leur goût dans les autres conférences, ça ne change pas. Mais vraiment en termes de rythmique et en termes d'annonce, je pense que c'est Xbox qui a remporté la donne très clairement selon moi, quoi.
Et on peut parler de tendance aussi, parce que Thomas disait qu'il y avait eu de la variété pendant Summer Game Fest, mais on peut dire la même chose de la conférence Xbox, même si certains iront, ouais, à dire qu'il y avait beaucoup de flingues. Quand même dans cette conférence, c'était mine de rien, il y avait un peu de tout. qu'on pense, ouais, qu'on parle des blockbusters, des jeux internes ou des jeux indés.
Mais pas que PED.
Très clairement. Bah attends, on a eu jeu de bagnole, on a du RPG, on a eu du shooter effectivement, on a eu du jeu de stratégie avec Age of Empires. Je trouve un condensé, un échantillon assez représentatif du jeu vidéo dedans quoi. Après voilà, c'est les tendances aussi. Faut pas se leurrer. Les shooters, ça a toujours été à la mode. Ça se vend vachement bien. Donc forcément, bah il y en a aussi quoi. Et puis là, je trouve franchement le seul regret qu'on pourrait avoir sur la conférence Xbox, c'est surtout l'absence de gros mastodontes. Alors, on s'en doutait un peu, mais même pas un peu de teasing de Elder Scrolls, par exemple. Je pense que ça a beaucoup, alors pas choqué les gens, mais ça a déçu pas mal de monde. Même si nous, de notre côté, là, on s'y attendait un peu, mais c'est vrai que le grand public aurait bien aimé avoir même un mini teaser, à tel point qu'ils sont beaucoup. On a vu un teasing de Elder Scrolls dans la bande-annonce de Starfield. C'est à tel point les gens étaient en manque d'Elder Scrolls, ils sont allés jusqu'à chercher la petite bête là-dedans. Donc voilà, je pense qu'ils auraient fait un bon move s'ils avaient ne serait-ce que teasé un mini truc, même ils auraient monté une vidéo de 30 secondes Elder Scrolls. Je pense qu'ils auraient pu ravir pas mal de monde quoi.
Ah, en fait, c'est parce que le grand public connaît pas assez bien Arkane Studio, ils savent pas à quel point l'annonce d'un jeu Arkane ça peut être un bon one more thing. Un jour ils comprendront. Je pense qu'un jour les gens comprendront que Prey, Dishonored 2, Deathloop probablement aussi, et sûrement Redfall. Il faut y faire très attention.
Il y en a qui ont déjà compris, t'inquiète pas.
Ce qu'il ne faut pas oublier pour la conf de Microsoft de cette année, c'est que jusqu'à l'an dernier, c'était deux confs. C'était la conf Microsoft et la conf Bethesda. C'est pour ça aussi que ça paraît être hyper dense maintenant. C'est parce qu'en fait, avant, c'était deux confs et elles ont été mises en une finalement.
C'est vrai. Et il n'y a pas les cinglés qui crient au premier rang cette fois à chaque annonce d'un truc Bethesda.
Ils étaient chez eux, je pense qu'ils ont crié quand même.
C'est vrai que ça change quand même. Rami, de ton côté,
dans les tops, je pense que je vais rejoindre Camille et puis tout ce qui a été dit auparavant, c'est la conférence Xbox qui a été vraiment, qui a montré énormément de choses et puis beaucoup de jeux attendus. Bon, juste petit bémol pour Halo Infinite qui cache toujours son mode campagne. Mais,
Le multi est super rassurant.
Ah, le multi est très rassurant. Après, bon, c'est un peu un tout. Halo Infinite, c'est aussi bien la campagne que le multi. Mais c'est vrai que voilà, il y a énormément de jeux qui ont été montrés. Ça a été du non-stop. Et ça aussi qui était cool. Bon, après, il manque un peu ce qui faisait ce petit sel de l'E3. C'est-à-dire, voilà, Damien en parlait, c'était les petits ratés durant les confs, etc. Moi, je trouve que ça fait un peu partie du lore de l'E3. Et voilà, c'était des confs intéressantes. Le Summer Game Fest, je trouvais que c'était vraiment. On voyait plein d'acteurs, on voyait. Comment il s'appelle le méchant de Far Cry 6, j'arrive jamais à retenir son nom. Exactement. Bon, il y a Kojima qui a passé une tête pour. Finalement, pas grand chose, mais voilà.
Si, pour troller.
Voilà, exactement. C'est vrai, pour troller. On a pu voir du Elden Ring en plus pendant le Summer Game Fest, donc ça, c'était vraiment, je trouve, une bonne chose. Et on était sur un E3 qui, moi, je trouve ni mauvais ni bon, mais qui était dans une dynamique où il y avait plein de jeux à montrer. Moi, Nintendo m'a beaucoup surpris. Je veux dire, Metroid Dread, c'était une annonce un peu inattendue. Voir du gameplay de Breath of the Wild 2 toujours un peu plus, bon ça c'est intéressant. Puis après on est sur un E3 qui a une dynamique où ils veulent montrer énormément de jeux, où c'est du pré-enregistré, ils montrent et puis ils lâchent leur cartouche et puis voilà, ils sont sur une dynamique de montrer des jeux à fond. Et c'est vrai qu'il manque un peu ce petit. On n'a pas cette effervescence du salon où voilà, il y a les journalistes sur place, on a les impressions, les petits trucs, etc. Mais voilà, je pense que c'était là. De toute façon, ils n'avaient pas le choix de faire cette formule. C'est pas pour me déplaire,
pour tout dire. Question à tous. Le premier qui répond a gagné, les autres suivront. Par rapport au nombre de rendez-vous qu'on a eu sur cette E3, je parle de rendez-vous, je parle de stream. Qui ont été proposés, et j'englobe aussi le Summer Game Fest une fois de plus. Est-ce que c'était pas vraiment trop? Je veux dire, il y a eu énormément de rendez-vous, que ce soit des éditeurs qu'on a l'habitude de côtoyer, qui sont présentés, et on parlera peut-être du cas de Core Media après dans les flops, je pense. Il y a eu énormément d'éditeurs classiques, on va dire, et d'autres qui se sont avancés, qu'on connaissait moins, des indés, qui ont eu aussi leurs événements. Est-ce que c'était pas trop, et est-ce que de manière générale, avec cette E3, ce n'est pas une énorme indigestion qu'on a eue parce que bah, tout balancer comme ça pendant la même semaine, ok. Normalement, nous, on est là pour les couvrir les trucs et dire « Ah, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'il faut surveiller. » Là, il y a eu zéro digue pour essayer justement de retenir des jeux et de les étaler un petit peu plus en termes de révélation sur le temps. Et donc, moi personnellement, je vous dis, je me suis senti mais débordé de voir tous ces éditeurs. Je ne parle pas de Limited Run ou d'autres, il y en a d'autres, il y a Limited, non, Mythical Games, Machin Games, tous les trucs qui finissent par Games ont eu leurs événements. Parce que c'était pas genre vraiment beaucoup de... sous ce format.
Ouais, beaucoup trop, et en plus pour pas forcément grand chose à chaque fois, quoi. Par exemple, Touquet, honnêtement, il y a eu rien, il y a eu aucune annonce vraiment, aucune annonce de jeu. Ils auraient pu faire un communiqué de presse ou une vidéo en dehors de l'E3. Enfin, c'est aucun intérêt. C'était juste pour se montrer. Voilà, on a de la thune, on va faire une conf. Bandai Namco, honnêtement, c'était voilà, il n'y a pas eu d'énorme annonce non plus. Donc vraiment, il y a des éditeurs qui ont fait des confs juste pour un contenu, pour un DLC ou même pour rien du tout, juste pour montrer qu'ils étaient là, mais en fait l'intérêt était vraiment, vraiment limité, voire nul. Donc je comprends pas trop. Si je comprends point de vue marketing, voilà, faut montrer ça après.
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait des boîtes comme Capcom, par exemple, quand on est à un E3 ou une Gamescom, ils ont une présence sur, on va dire, une conférence d'un autre constructeur avec deux trailers qui traînent par-ci par-là. Mais en général, tout ce qu'ils font, c'est avoir une présence dans la partie business. Et nous, on arrive, on essaye une démo vite fait pendant 15 minutes. Et là, c'est des exercices assez différents. Et du coup, les gens se montent la tête en se disant « Ah ouais, Take-Two va avoir un panel, c'est génial. » Le résultat, c'est un truc sur la diversité dans toutes les entreprises de Take-Two. Capcom a balancé oui du truc sur Ace Attorney et autres, mais c'était pas non plus des révélations incroyables. Bandai Namco, c'était un spécial House of Ashes. Ça, c'est des choses, en fait, on a l'impression qu'ils ont, comme tu dis, ils ont voulu être là pour dire on est là, mais finalement c'est des choses qui ont remplacé les moments où nous normalement on est exceptionnellement et uniquement avec eux. Donc c'est ça que ça a fait, et je sais pas si c'était la bonne chose à faire.
Moi, je te rejoins là-dessus, et j'ai l'impression que, en voyant ce 3, que, c'est un peu péjoratif de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que c'était un peu la cour des miracles par moment où ils ont accepté tout le monde, ils ont pris tout le monde, ils ont fait « Ok, on va remplir comme on peut, on va prendre tout le monde », et au final, ça donne quelque chose d'indigeste quelque part, où on a tout et rien en même temps. Enfin, Capcom, ça aurait pu très bien se glisser sur la conf Xbox ou une autre conf, et puis passer par là, quoi, parce que... Il y a des moments où la conf Capcom ou Square Enix qui nous montre les Gardiens de la Galaxie qui durent 30 minutes sur une heure de conf,
c'est un peu indigeste. Mais c'est là que le salon, dans sa formule classique, a peut-être justement encore un petit peu d'intérêt, c'est que typiquement dans le cas de Capcom ou de Square Enix, tu prenais justement l'annonce du DLC de Resident 8 chez Sony ou chez Microsoft, si Sony venait encore, tu glisses la partie sur Ace Attorney et Monster Hunter Stories 2, ce qui s'est fait d'ailleurs dans le Nintendo Direct, et d'un coup tout ça est un tout petit peu plus intéressant, parce que c'est vrai que de centrer, de dire venez regarder un stream pendant 45 minutes où on va vous montrer des trucs et où finalement il n'y a ou pas grand chose ou un gros focus sur un jeu dont tu te tapes cordialement, par exemple Square Enix, effectivement. Mais tout ça, si tu l'avais glissé justement un petit peu ailleurs dans ce tunnel, ce qu'a fait Microsoft et Bethesda, ce tunnel d'annonces, tout de suite, t'as pas la même impression finalement. Tu retiens peut-être un petit peu plus du positif que de venir pour un événement en particulier. Après, pour le coup, Capcom et Square Enix, on pourra pas leur reprocher de pas avoir prévenu quelque part. On avait la liste des jeux qui étaient présentés. On est évidemment toujours en droit de s'attendre à avoir une petite surprise. Il y en a une petite chez Capcom, mais grosso modo, on avait déjà le menu. On savait à peu près où est-ce qu'on mettait les pieds, quoi.
Ah bien.
Le panel de Take-Two, c'est vrai que c'est, enfin voilà, moi j'avais l'impression d'être à la GDC, quoi. Ça aurait été une GDC, j'aurais compris, je me serais dit voilà, il y a des talks, il y a des trucs, c'est pas censé être grand public, donc aucun problème. Là en l'occurrence, t'es censé envoyer du rêve aux joueurs lambda, et clairement une discussion sur l'inclusivité dans le jeu vidéo, voilà, c'est important, c'est des trucs qu'il faut dire, mais bon, c'est pas non plus ce qui va faire rêver les masses, et ce qui, mais bon. D'un autre côté, on s'en doutait déjà, de toute façon, voir le truc marketé en tant que Take-Two Interactive, c'était bizarre. On sentait que ça allait être un rendez-vous corporate, sinon ils auraient dit que c'était du Rockstar ou du Touquet, ou même du Private Division, quitte à aller chercher leur label indé. Mais voilà, je pense que là, effectivement, après, est-ce que ça avait grand-chose à faire dans un E3? à mon sens, clairement pas, ou en tout cas pas pour... Enfin voilà, ça aurait dû être un espèce de meeting privé pour les journalistes ou ceux que ça intéresse. Je pense pas que ça aurait dû être marketé, on va dire, comme ça. Pareil, il y a d'autres annonces, effectivement. Je crois que c'était quoi? C'était Capcom ou Bandai. Il y en a une qui a duré genre même pas un quart d'heure. C'est pareil, effectivement. Est-ce que c'est vraiment eux qui voulaient être présents? Est-ce que Geoff Keighley ou les A ou ceux qui ont un peu organisé le truc sont allés les voir en disant eh, faut absolument que vous soyez là, les mecs. En plus, regardez, il n'y a pas Sony, machin, c'est le moment de briller. C'est possible aussi. Clairement, c'est une période de transition. Et effectivement, je pense que voilà, de toute façon, à voir si bah, l'an prochain, ça va effectivement, le 3 va revenir. Ils ont prévu que ça allait revenir sur site. Est-ce que ça va réattirer tout le monde ou pas? Et puis, est-ce que sinon, bah, les... voilà, ceux qui ont fait des annonces ou des confs un peu, je vais dire, pas merdiques, mais on va dire superficielles ou un peu légères cette année, parce qu'ils vont pas se dire, finalement, l'an prochain, on va aller chez Microsoft, on va aller chez Sony, ou même si c'est 2 mois plus tard, parce que finalement, bah, au moins, on ne sera pas noyé dans la masse des 2 millions d'indés qui vont être annoncés maintenant.
Et comme avant, en fait.
Ouais, déjà, effectivement, exactement comme avant. Et puis, le fait, effectivement, c'est que cette année, si tu regardes tous les jeux qui ont été annoncés, on a eu un peu de AAA chez Geoff Keighley, on a eu du AAA chez Bethesda Microsoft, puis derrière, un ou deux AA, et puis sinon, c'était des tunnels d'indés. Je crache pas sur les indés, hein, j'adore les indés, j'en ai mis plein dans mon top, mais effectivement, pareil, voilà, toujours ce que je disais, l'E3, c'est censé vraiment vendre du rêve et mettre des gros starts, montrer le futur, sortir des jeux next-gen, etc. Ah, c'était pas vraiment, vraiment le cas, quoi. En tout cas, sur la plupart des confs, même les jeux qui ont été annoncés, voilà, Elden Ring, ça arrive tout le monde, etc. Visuellement, moi, c'est pas ça qui a me donné envie de claquer 500 balles, 600 balles dans une PS5, quoi. Trois quarts des jeux qui ont été montrés, en vrai, des trucs vraiment next-gen, visuellement, qui cassent la baraque, qui ont une vraie différence avec ce qu'on voyait avant, qui sont pas juste un peu plus beaux, bah, y en a pas eu tant que ça. On n'a pas eu tant que ça.
On y reviendra.
Je trouve que ça manque un peu.
On en reparlera quand on va aborder les jeux. On va parler des gros flops. Alors, je le disais, il y a eu la conf Core Media qui avait l'air très content hein, au départ d'annoncer Prime Matter pendant le Summer Game Fest, ce nouveau label qui va regrouper des tas de développeurs comme par exemple War Horse qui va sortir son Kingdom Come Deliverance sur Switch. Ça fait partie des trucs les plus déprimants qu'il ait pu y avoir pendant cette E3.
Je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est ce que disait Damien aussi, c'est typiquement le genre d'événement auquel tu es invité quand tu es sur place, ça peut être l'E3, la Gamescom ou effectivement la GDC, ça intéresse un peu les professionnels du milieu, mais globalement, les joueurs dans leur immense majorité s'en tapent, et il suffisait d'ouvrir le chat à côté du Core Media Primetime pour se rendre compte que les gens pétaient littéralement des câbles en découvrant que les jeux n'étaient pas annoncés ou présentés. Alors que, pourtant, c'est un exercice qui est intéressant, parce qu'effectivement, c'est un gros éditeur qui lance un label et qui du coup l'explique, fait venir des devs, des patrons de studio pour dire voilà sur quoi on bosse, avec quelle philosophie, machin, mais typiquement c'est un truc des gens de l'industrie et pas à destination du grand public. Et je pense que l'erreur ça a été de l'insérer avec un nom entre guillemets un petit peu trompeur au milieu de toutes ces confs un peu plus traditionnelles, ce qui fait que les gens ne savaient pas trop dans quoi ils mettaient les pieds et ont été vachement déçus. Mais en soi, c'est quelque chose, c'est un événement auquel nous, on aurait pu assister sur place, qui n'est pas inintéressant parce que tu apprends des choses. Mais voilà, ça s'arrête là.
Ouais, puis il y a une question de mise en scène aussi, quand même, Thomas, par rapport à.
Ah ben, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu, écoute.
Très bien. Bon, pour les flops, pour les gros flops, Camille, je vois que tu as envie de parler des gros flops de cette année.
Ouais, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que moi enfin, en tant que PCiste, forcément, le PC Gaming Show, ça m'a particulièrement marqué, parce que quand t'es amateur de PC, que tu vois ça, t'as envie de t'arracher les cheveux, quoi.
Les éditions précédentes étaient plutôt pas mal.
Ah non, elles n'ont jamais été vraiment bonnes, mais c'est vrai que l'année dernière, il y a 2 ans, c'était quand même un level un poil au-dessus que ce qui a été cette année. Cette année, c'était
moins naze.
C'est ça, c'était voilà, exactement. Mais cette année, entre la com sur MechWarrior qui ressortait toutes les 5 minutes, où t'avais Frankie qui apparaissait dans son truc là, machin, enfin c'est de science-fiction, c'était ridicule.
N'oubliez pas de voter pour l'ordinateur que vous préférez.
Ouais, c'est ça, ouais. t'avais les blagues qui faisaient rire que finalement, enfin c'était vraiment des sketchs qui étaient vraiment ridicules, les annonces qui étaient vraiment pas folles. C'est en fait c'est le mix, c'est le mélange de tout ça, ça fait une bouillie qui est vraiment indigeste et qui est pas agréable à regarder en fait. C'est-à-dire que c'était mal, pour le coup mal construit. C'est-à-dire que parfois on a eu plus de temps de pub pour MechWarrior 5 que pour un trailer de jeu quoi. C'est assez incroyable quoi. Et puis au-delà de ça voilà, il y a eu des trucs qui ont été teasés, ouais vous inquiétez pas, il y a Val qui va être là, ça va être génial et tout, alors qu'en fait les annonces étaient rincées mais à mort quoi. Il y a rien eu, il y a pas eu de jeu, il y a rien eu quoi.
Alors là, évidemment c'était quoi déjà l'annonce de Val? C'est Gabe Newell, il est venu parler mais j'ai complètement oublié ce qu'il a dit.
Ah c'était NeoFest.
Ah oui, ouais, c'est pour annoncer le NeoFest qui arrivait, c'est vrai. Ouais.
Alors que, évidemment, quand tu t'attends à avoir Gabe Newell qui est inexistant sur les réseaux sociaux, qui apparaît quasiment jamais, à part dans rares médias mainstream de temps en temps en Nouvelle-Zélande, tu t'attends à ce que le mec vienne faire une grosse annonce, annonce un gros truc. Typiquement Half-Life 3, par exemple, pour ne citer que lui.
Surtout quand on te dit, il y aura un mot de Gabe Newell, hein. C'est super,
c'est ça.
Mais en gros sur l'affiche même.
C'est ça, ouais. Alors, et puis quand tu vois le résultat, tu dis, bon, voilà, tu sens qu'il y a eu du gros mensonge pour faire venir le chaland. Et puis finalement, bah, voilà, le résultat, il est là. C'est que, bah, pareil, dans le chat de PC Gamer, bah, les mecs, ils pétaient un câble aussi, et c'était du foutage de gueule toutes les deux minutes, quoi. Donc, je trouve ça, j'ai trouvé ce PC Gaming Show profondément déprimant. Il n'y a aucune annonce que j'ai retenue au PC Gaming Show. C'est-à-dire que soit c'était des trailers rediffusés, alors ça, c'est encore, je crois que c'est le pire, des trailers rediffusés d'autres confs. Soit des trailers soit des petits jeux qui ont leur place, mais du coup qui auraient pu présenter ça en dehors de l'E3 au lieu d'être noyé dans un flot d'annonces. J'ai trouvé ça profondément déprimant, ce PC Gaming Show. Donc moi, ça reste le gros flop en tant que PCiste en plus, quoi.
Damien, je pense que t'es pas loin de le rejoindre, j'ai l'impression.
Sur le PC Gaming Show, ouais, totalement. C'était un infomercial qui a duré 1h20, quoi. C'était une purge. J'ai envie de dire En fait, c'était pas si chiant que ça, parce que moi, au bout de 40 minutes, en fait, j'étais mort de rire, tellement c'était ridicule. En fait, en vrai, c'était divertissant. J'étais vraiment mort de rire, et tu voyais les mecs en train de t'expliquer que, ouais, vas-y, votez pour mon mode de PC. Les 4 PC, en plus, ils étaient dégueulasses, hein, faut être honnête, quoi. C'était des mods, ils étaient ignobles, franchement, qui jouera avec ça chez soi, quoi. Et puis, voilà, quoi, les mecs en train de forcer comme des brutes pour leur free-to-play, donc tout le monde se balance. Oui, c'était hyper comique. Puis voilà, après, si tu regardais le chat de PC Gamer ou machin, les mecs qui demandaient qu'on leur apporte de la corde, c'était juste. Si, moi j'étais mort de rire. En vrai, voilà, c'était une catastrophe, mais c'était divertissant. Après, effectivement, t'as des trucs comme Take-Two où c'est intéressant, mais pour le coup, c'est profondément chiant parce que, voilà, on me l'aurait proposé en milieu de journée, je me serais dit c'est intéressant, je vais suivre. En fin de soirée, etc., avec l'heure, la fatigue, puis tu sais qu'il y a autre chose avant, qu'il y aura autre chose après. En vrai, c'est pas quelque chose qu'il faut proposer. Et du coup, ça, c'est pareil. Sur le fond, c'était probablement mieux que le PC Gaming Show. Sur la forme, c'était une putain de re-zoom entre des execs. Et c'était chiant comme la pluie, quoi. Donc voilà, différents niveaux de trucs désagréables, mais clairement, ouais. PC Gaming Show, c'était. Voilà, moi, j'espère que PC Gamer s'est fait du blé au moins avec son OPSP MechWarrior, mais. Le pire, c'est que c'est quasiment le truc dont on se rappelle le plus, c'est MechWarrior, parce qu'ils nous ont bourré par là pendant 1h30. Du coup, en fait, toutes les annonces, on s'en souvient pas. On se souvient juste des mecs avec leur cosplay dégueulasse dans leur cockpit de vaisseau. Et puis maintenant, tout le monde sait que si tu vois marquer MechWarrior, tu fuis, tu prends sens, tu te retournes et tu pars loin, quoi.
Rami,
bref,
côté gros flop.
Ouais, clairement.
Bon, déjà, flop, c'est d'avoir assisté au Core Media Prime Time, mais bon, ça, je vais pas tirer sur l'ambulance. Mais sinon, étonnamment, je dirais Capcom et Square Enix, où pareil, c'était. Je pense que c'était le rythme, et puis, même si Thomas l'avait dit, on savait à quoi s'attendre. Mais. Même quand on a la liste des jeux qui vont être montrés, quand on est devant la conférence, on se dit quand même, ouais, je le savais, mais putain, qu'est-ce que c'est naze. Et je retiens ces deux-là. Après, c'est un manque de rythme, un manque peut-être. Je pense qu'il y a aussi, c'était dans la globalité, c'est que ce que disait Damien, c'est qu'il n'y a pas eu de jeux super next-gen qui ont fait cet effet un peu waouh. Il y en a eu Il y en a eu quelques-uns, et pour le reste, ça donnait l'impression qu'on était dans une transition un peu bizarre d'un entre-deux entre la current gen et la next gen, avec des jeux qui étaient qui éclataient par la tine. Mais par exemple, Elden Ring, bon, From Software, ils nous ont jamais vraiment fourni des jeux qui étaient graphiquement très ouf. Mais ouais, c'était vraiment le sentiment d'être dans un entre-deux de générations. Et en fait, c'est un sentiment qui est un peu global, c'est de pas d'effet waouh, à part quelques moments, à part Stalker 2, peut-être Forza, mais le reste, bof bof. Et voilà, je retiens vraiment les deux confs, Capcom et Square Enix. Moi, Square Enix, Marvel, j'adore Marvel, hein, j'adore Guardians of the Galaxy, mais au début, je suis passé de... C'est un ascenseur émotionnel digne du Bitcoin, je suis passé du... Waouh, c'était génial, là. Putain, j'en peux plus. Donc voilà, je pense que je retiens ces deux conférences en gros.
Thomas ?
Oui, j'ai défendu un tout petit peu Core Media sur le fond, mais effectivement, je ne veux pas laisser Square Enix s'en tirer à si bon compte, parce que pour moi, l'un des plus gros moments de gênance des conférences de cette édition, c'était quand même l'annonce de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Déjà, le titre, tu sais à peu près où tu mets les pieds, hein, donc partenariat entre Square Enix et la Team Ninja, et vraiment... Je crois que c'est la bande-annonce, mais la plus pétée de cette édition. Tu vois, Damien parlait de MechWarrior qui a été rabâché. Là, c'était le mot chaos qui devait rentrer dans les esprits. On te présente un jeu qui est typiquement japonais, avec un peu de Squeax, un peu de Team Ninja, et on te fait une version anglaise, mais ignoble, avec en plus, pour le coup, on parlait de jeu cross-gen, mais là, tu as l'impression que c'est vraiment un jeu old-gen, que ce soit graphiquement ou sur le plan de la direction artistique. Et eux te mettent ça dans leur conf, après t'avoir déjà endormi à coup de 20 minutes, effectivement, de Guardians of the Galaxy, dont au bout d'un moment, si tu t'en fous de l'univers Marvel, t'as déjà un petit peu décroché sur le plan cérébral en début de conf. Et pour moi, ouais, c'était vraiment un moment assez difficile et où tu te dis, ça te fait justement t'interroger sur le fait qu'eux-mêmes aient un événement à part entière. Si c'est pour présenter tout ça, enfin, ces quelques annonces pas forcément super démentielles, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un event? Parce que quand tu te dis que ça fait partie des jeux qu'ils ont sélectionnés en se disant « Ouais, ok, ça, on fait l'annonce à l'E3 2021, ça se justifie », c'est quand même un peu compliqué, quoi.
Justement, je vois que vous êtes beaucoup à dire que ça manquait de vrai next-gen sur cette E3, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi trouver comme excuse à ce flop, entre guillemets, le fait qu'on est encore dans une période qui est très compliquée et que du coup, pour l'instant, peut-être que ce soit les constructeurs comme les éditeurs, on n'a pas trop envie non plus de partir sur de la next-gen en sachant que tout est en retard, tout simplement.
Et personne n'en a surtout. Ben, honnêtement, à part si tu as un PC, même les cartes graphiques, elles sont hors stock.
En fait, personne non, parce que la PS5, ouais. Malgré le fait qu'elle est en rupture de stock, c'est 8 ou 10 millions, un truc comme ça. Donc, elle a plutôt bien démarré. Et il y a les stocks qui reviennent de plus en plus. D'ailleurs, hein, tous les jours, on a des rappels sur Twitter par les principaux fournisseurs de bons plans. On en remarque de plus en plus ces derniers jours, que ce soit sur PS5 ou Xbox Series. Donc, ça commence à augmenter au niveau des stocks. Mais c'est vrai que
oui,
c'est
ça augmente, mais la demande est quand même plus forte. Donc pour l'instant, tout le monde n'est pas servi. Donc c'est vrai que tu présentes un jeu qui donne vachement envie à un mec qui attend sa console depuis 3 mois, c'est un peu problématique, quoi. Donc peut-être qu'il y a aussi de ce côté-là dedans, quoi.
D'un autre côté, quand tu présentes l'idée de l'E3, ou en tout cas la politique de Sony à l'E3 sur ces dernières années, c'était surtout de donner envie en te vendant des jeux qui arrachent la rétine, mais qui vont sortir de toute façon pas avant 2 ou 3 ans. Ça, à la limite, j'ai envie de te dire, tu peux continuer à le faire. Dans 3 ans, des PS5, il y en aura sur le marché. Et il faut quand même que tu donnes envie aux gens d'aller l'acheter. Parce que même si, effectivement, aujourd'hui, t'as pas de problème et elle trouve tout preneur, même à des tarifs hallucinants, rien ne te dit que dans 2 ans, quand on aura des stocks partout et des entrepôts qui débordent, si les mecs arrivent et se disent « Bon, en fait, avec ma PS4, en vrai, je suis bien, quoi. » Ça va pas faire tes affaires non plus. Je trouve que, voilà, même que ce soit Microsoft ou les autres, ils auraient dû quand même vendre un peu plus de rêve là-dessus, parce que, on n'est pas forcément en train de gérer les ventes de consoles sur les 6 prochains mois, mais sur les 2-3 prochaines années.
Et justement, on peut parler aussi du fait que, mine de rien, la plupart des acteurs du jeu vidéo qui étaient présents ont été plutôt pragmatiques de ce côté-là, parce qu'ils n'ont pas annoncé tous... en masse des jeux qui allaient sortir en 2023 ou 2024. Il y a énormément de jeux, et en particulier chez Nintendo, Et même Microsoft, d'ailleurs, Microsoft aussi, je me souviens que pendant la conf, je me disais, mais c'est pas possible, là, le calendrier, il est foutu pour la fin d'année. Ils ont énormément de jeux qui sortent pour les 6 prochains mois ou le début d'année 2022 aussi.
Mais parce que l'époque est particulière et effectivement, il y a des jeux qu'on a découverts pour la première fois à la dernière édition physique, donc en 2019, qui sont toujours pas sortis. Entre-temps, je crois qu'il y a eu une pandémie, un truc comme ça, une grippette qui est passée par là. Tous les studios du monde entier ont dû s'habituer à travailler un petit peu différemment. Ça a occasionné un nombre de retards gigantesques. Et effectivement, c'était peut-être l'édition où il fallait rattraper un petit peu ce retard-là. Il y a eu de l'incertitude pendant très, très, très longtemps sur les dates de sortie. On compte plus le nombre de reports auxquels on a assisté pendant ces derniers mois. Et du coup, c'était peut-être le moment justement de repartir sur voilà, là maintenant ça sort vraiment, les jeux qu'on vous montre, ils vont arriver, ça fait longtemps qu'ils sont en développement pour certains, ils n'avaient même pas été annoncés, mais on avait quelque chose peut-être de plus concret que d'habitude. C'est vrai que Damien parlait des annonces de Sony qui typiquement, généralement, vend du rêve. Rappelez-vous de l'année où on a eu Shenmue 3, FF7 Remake, etc., et le temps qui a dû s'écouler entre le moment où ils sont annoncés et le moment où les jeux sortent. Là au moins c'était quelque part plus tangible et du coup peut-être plus approprié finalement à l'année 2021 quelque part.
C'est vrai, absolument. Donc peut-être que de ce côté-là, on peut au moins essayer de trouver des excuses à la plupart des développeurs pour ce genre de choses. On va passer maintenant, messieurs, à la deuxième partie du podcast, une partie beaucoup plus joyeuse, c'est-à-dire qu'on va parler des jeux. Enfin, les jeux qui nous ont tapé dans l'œil durant cette semaine de E3 et Summer Game Fest. On va commencer par toi, Damien, parce que tu es notre invité et que c'est mieux de te laisser parler en premier. Ton jeu le plus attendu suite à cette E3, quel est-il? Et je crois que tu le partages avec quelqu'un d'autre.
Ouais, bah, je pense que je partage ça avec Camille. C'est évidemment Stalker 2. Alors Stalker 2, moi, en fait, je suis un gros fan de la licence depuis le premier jour. C'est-à-dire qu'à la base, Stalker 2, il devait sortir après Shadow of Chernobyl, hein, qui était donc le premier épisode de la série. Et puis les devs sont arrivés, on dit « Désolé les mecs, on est des Ukrainiens, on n'a pas de thunes et c'est trop galère. Du coup, on va vous sortir des spin-offs avec ce qu'on aurait aimé mettre dans Stalker 2, mais pour l'instant, on ne peut pas se permettre de le faire. » Et du coup, on avait eu Clear Sky avec donc ce fameux monde ouvert, le système des factions, etc. Et quand on devenait potes avec les factions, on pouvait faire des missions avec eux, etc. Et puis, le dernier volet, Call of Ripiat, où là, du coup, on avait une aventure qui était un peu plus libre que celle de Shadow of Chernobyl. Puis, on avait surtout Pripiat, qui était enfin modélisé, vraiment vachement bien. On pouvait vraiment se balader un peu partout. Voilà, l'idée, c'est que Stalker 2, c'est censé être la synthèse de tout ça, avec une technique remise à jour. Et forcément, voilà, moi, ça fait 15 ans que j'attends ça. Du coup, bah, voilà, c'est pas vraiment... Voilà, le fait de voir l'enfin du gameplay, bah, j'étais forcément hyper heureux. En plus, visuellement, ça déchire. Après, moi, ayant poncé les trois précédents, j'ai un gros mot du haut qui est qu'il n'y a aucun stalker qui soit sorti en tournant. Hein. Les sorties des stalkers, c'était un peu comme la sortie de Cyberpunk, c'est-à-dire que ça ne marchait jamais. Ouais. Donc, on espère que là-dessus, ils ont fait des progrès. Je sais plus si c'était... Je crois que c'était Call of Pripyat. Il était sorti, il était totalement injouable pendant 3 mois, je crois. Enfin, c'est genre les quêtes étaient plantées, etc. Et je me souviens qu'il avait fallu attendre, je crois que le premier patch qui était sorti, qui rendait le truc jouable, c'était un patch en russe. Donc je me souviens qu'il me prend les pièces rouges, je l'ai fait entièrement en russe et en cyrillique. Donc j'ai rien compris au jeu. J'avais dû me le refaire derrière avec un patch qui traduisait avec l'anglais ou du français pour pouvoir enfin comprendre ce qu'il fallait faire.
Ce niveau d'amour.
Ah ouais, non, mais c'est voilà. Moi, là-dessus, je suis complètement biaisé et je le reconnais volontiers. Mais voilà. Et puis, ouais, c'est toujours un truc qui techniquement arrache. C'est probablement un truc qui tournera pas non plus parce que les premiers ils tournaient très mal aussi. J'espère juste que voilà qu'ils ont fait des progrès techniquement. Normalement, ça fait un moment qu'ils sont dessus. L'autre grosse bonne nouvelle, en tout cas moi mon gros espoir, c'est qu'a priori Microsoft a sorti le chéquier pour que ça débarque sur PC et Xbox. Et du coup, cette fois-ci, ils pourront pas nous dire qu'ils n'ont pas eu les moyens et que c'était la dèche. Donc ouais, là-dessus, Stalker 2, j'attends à fond.
On rappelle, un stalker, à l'époque, dans la presse spécialisée, ils avaient fait un voyage à Tchernobyl pour aller le voir. Je me souviens que Fumble, donc actuellement rédacteur en chef de IGN, et qui travaillait à Joystick à l'époque, s'était rendu là-bas, avait mis une combinaison et tout, et avait pris ses petites pastilles d'iode, c'est ça.
Ils étaient repartis avec en cadeau une bouteille de vodka Cossack.
C'est vrai, c'est vrai. J'en ai beaucoup entendu parler de ce prestige. Ah. J'aurais presque voulu le vivre, pour tout vous dire. Camille, je vais me tourner vers toi parce que je crois savoir que Stalker 2 aussi, c'est ton jeu le plus attendu depuis cette E3.
Ouais, exactement. Bah, Stalker, voilà, c'était un peu l'Arlésienne qu'on attendait tous, on pensait tous qu'il avait été annulé. Finalement, il y a quelques années, on a appris qu'ils avaient trouvé le financement pour le faire. Donc voilà, Stalker, c'est un mythe. Hein, le premier Shadow of Chernobyl, je ne sais pas si tu te souviens, Damien, mais voilà, il y avait pas mal de soucis aussi à la sortie. Il fallait une configuration de Titan pour pouvoir le faire tourner, etc. Alors on espère que ce n'est pas forcément le cas pour celui-ci. Quoique, bah, de ce qu'on en a vu, il faut visiblement, sur PC en tout cas, une 1080 Ti pour le faire tourner.
En 1080p.
Ouais, en 1080p.
Tu veux du RTX, c'est 2070, super.
C'est ça. Donc, ça fait partie du mythe, en fait. Stalker, c'est le jeu qui te bouffe ta configuration et qui n'est pas forcément très optimisé.
Et 150 gigaoctets d'install.
C'est ça, voilà. Donc voilà, c'est vraiment le mastodonte. Et voilà, rien que pour ça, c'est un jeu que j'attends. Puis évidemment, bah, pour la technique qui a l'air folle, t'en parlais très justement lors de la conf Plume, tout ce travail qui a été fait sur les visages, etc. Enfin, il y a vraiment un gros travail technique qui a été fait. Et on sent vraiment que bah, pour le coup, ça va être une grosse claque, quoi. Donc rien que pour ça, ça mérite le coup d'œil, évidemment, quoi.
Alors, on reste dans les jeux les plus attendus. On va passer. On reste sur toi, Camille, parce que tu en as un deuxième, en fait. Il y en a un qui était caché juste derrière.
Ouais, j'ai en parlé très rapidement, parce que ça n'a pas été annoncé vraiment à l'E3, mais Back 4 Blood, moi, je suis un fan absolu de Left 4 Dead. Donc, quand j'ai appris que Turtle Rock, évidemment, n'avait pas récupéré la licence Left 4 Dead, mais qu'ils avaient développé leur propre jeu qui s'appelle Back 4 Blood, voilà, vous voyez la proximité dans le titre. L'E3 a été l'occasion de voir voilà, du gameplay de ça. D'ailleurs, il y a une mini-conférence uniquement axée sur le jeu. C'est un jeu que j'attends beaucoup. J'adore les jeux de coopération, j'adore les jeux avec les zombies. Donc, voilà, moi, Left 4 Dead, c'est un de mes meilleurs souvenirs en termes de FPS. À l'époque, j'étais jeune, donc je n'avais pas découvert encore des choses un peu mieux, mais en tout cas ce jeu-là ça reste un très bon souvenir et j'adore le principe de la coopération à 4 comme ça, c'est vraiment un truc qui me botte, même si depuis le temps il y a des jeux qui sont sortis dans le même genre qui font aussi très bien le taf, vraiment j'ai pleine confiance dans Turtle Rock pour proposer quelque chose de très très propre à ce niveau-là, quoi.
Oui, d'ailleurs c'était une tendance de l'E3, hein, les jeux coop avec des vagues de zombies.
Ouais,
j'ai eu l'occasion d'en parler, hein. The Anno Crisis, je ne sais plus quels autres, Extraction, Rainbow Six Extraction, ça faisait partie des genres un peu super présents durant cette E3.
Pour vouloir placer ton optimisme sur Back 4 Blood, Turtle Rock, je rappelle que leur dernier jeu c'est Evolve.
Oui, mais il n'a pas marché faute de monde, mais le principe était pas mal.
Ouais,
le principe était bien, mais. Ouais. Plein d'équilibrage, du DLC.
Ouais, mais c'était. Il y avait de l'idée. Après, c'était chez Warner. À mon avis, ils ont pris le fric. Ils ont dit, bon, on verra plus tard. Et puis voilà, ils ont fait le jeu comme ils pouvaient, mais c'est tout. Non, c'était pas chez Warner, c'était chez Touquet.
Non, c'était chez Touquet.
C'était chez Touquet, autant pour moi. On va passer à Rami maintenant pour le jeu le plus attendu de cette E3. Et là, Rami, c'était un jeu qui a été présenté juste avant l'E3, mais on a quand même eu d'autres éléments durant.
Exactement. Bah, je vais parler de Battlefield 2042. En bon amateur multijoueur de FPS, bah, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc vraiment, moi je l'attends énormément dans le sens où les développeurs veulent l'accès sur une expérience totalement multijoueur et avec quelque chose d'assez fou en tout cas sur le papier, avec des maps gigantesques, des affrontements entre jusqu'à 128 joueurs, 64 par équipe. Et forcément, après un Battlefield 5 qui n'était pas forcément fou, il fallait revenir en grande pompe, sachant que sur le côté FPS, en ce moment, il n'y a que du. C'est beaucoup de Warzone. Warzone, d'ailleurs, qui commence un peu à décliner, donc il fallait vraiment quelque chose pour essayer de retourner sur ce segment où Activision est un peu seul. Donc Battlefield 2042, ça va être quelque chose, moi je pense, qui va être plutôt pas mal de ce qu'on a vu en tout cas en termes de gameplay, avec vraiment des affrontements ou sur des maps où il y a vraiment il peut y avoir des événements, des conditions météorologiques qui peuvent interagir ou non. Par exemple, une grosse tornade qui arrive dans une ville.
J'allais dire, ça fait partie des trucs dans la conférence Xbox qu'ont soufflé à peu près toutes les personnes pour regarder. C'est qu'à un moment, on nous a montré des affrontements, notamment à Dubaï, avec une tempête de sable qui arrive. Tu sens que c'est le bordel, mais absolu dans le jeu.
Ah bah c'est le bordel total, et puis c'est en fait c'est ça change totalement le gameplay. Au départ, bah t'as la map qui est voilà très ensoleillée, tout le monde, etc. Donc c'est de l'affrontement classique lointaine. Et ensuite, une fois que la tempête arrive, ça devient du combat très serré où il faut se rapprocher de l'ennemi, et là ça devient un bordel monstre. En plus, il faut se cacher de la tornade parce que sinon tu peux te faire aspirer toi et ton véhicule, etc. Donc c'est quelque chose qui a l'air vraiment sur le papier assez fou. Et puis il faut savoir aussi que 2042 c'est un futur, mais on reste sur des armes qui restent quand même actuelles. Pour pas déplaire à Camille. Et, et du coup, voilà, c'est quelque chose qui, je pense, à voir le gameplay, je pense on en saura plus, en tout cas à partir du 22 juillet, où ils vont montrer la deuxième expérience multijoueur, voire même la troisième aussi, qui est apparemment une lettre d'amour aux fans de Battlefield, donc on attend de voir ce que c'est. Mais ouais, ça augure du bon pour cette fin d'année. Après, je sais qu'il y a eu des reproches aussi sur le côté technique, le côté graphique, où c'est pas la grosse claque, d'après ce que j'ai pu lire sur les internets. Moi, de ce que j'ai vu, c'est quand même assez impressionnant. Maintenant, il faudra voir, je pense, d'ici fin juillet, avec leur nouvelle build, savoir dans quel sens ça a évolué.
Thomas, ton jeu le plus attendu, on l'a vu assez tôt et ça a été un émerveillement pour tout le monde, même pour les personnes qui ne sont pas des fans de Dark Souls en particulier.
Bah, c'est mon cas, figure-toi. Elden Ring, c'est le jeu que je ne savais pas que j'attendais, en fait, parce que je ne suis pas super saucé par la formule en général. Pour avoir essayé, c'était pas Demon's Souls, c'était Dark Souls à l'époque de sa sortie. Je m'étais dit non merci, ça demande trop de temps et trop d'investissement, c'est pas pour moi ce machin-là. Et en découvrant la DA d'Elden Ring, ça m'a vraiment vraiment saucé. Et au-delà de ça, Miyazaki a pris un petit peu la parole derrière pour expliquer, et on en avait parlé tous les deux un petit peu avant la conférence, le fait qu'un scénariste aussi connu que George R. R. Martin se glisse dans l'équation. Et peut-être apporte une caution un peu plus grand public. On se disait peut-être que ça va permettre au jeu, à la série des Souls, même si c'est pas un épisode à part entière, de trouver justement un nouveau public de joueurs. Et là, Miyazaki est bien venu préciser que ça allait être le cas. La structure allait être un petit peu différente, le jeu allait être un petit peu plus accessible. Et du coup, je me dis que c'est peut-être le bon moment justement pour profiter de découvrir un petit peu ce type de gameplay un peu plus exigeant. Et j'ai vraiment aimé ce qu'on a vu visuellement. L'univers avait l'air quand même super intéressant. Et au-delà de ça, j'aime beaucoup la manière, en fait, le rythme, le calendrier que Bandai Namco a eu autour du jeu. C'est-à-dire que on l'annonce une fois, il y a 2 ans, à l'E3 2019. Depuis, rien, pour ainsi dire, à part des bruits de couloir, des déclarations ici et là. Et 2 ans après, boum, un vrai trailer avec un truc assez fini, assez bien pensé, cohérent. Et la date de sortie, c'est boum, les gars, c'est janvier 2022. Il arrive dans 7 mois. C'est pas le bout du monde, c'est là très bientôt. Et tu te dis que s'ils l'annoncent justement à ce moment-là, c'est qu'ils sont en capacité de le tenir. Et j'ai envie de dire, voilà, au moins un studio qui prend le temps d'annoncer, qui ne surcommunique pas justement autour de son jeu qui pourtant était très, très, très attendu. Il faut voir la pétence qu'il y avait autour d'Elden Ring. Et qui, au moment où il arrive, fait un truc propre, quali et assez carré. Et voilà, tout ça mis ensemble fait que moi, ça devient d'un coup d'un seul un des jeux que j'attends énormément.
Ça se comprend, ça se comprend. Ça aurait pu faire partie de mes envies aussi. Je vais parler du mien, hein, vite fait. C'est Elden Chronicle, évidemment. Alors, on a appris qu'il a décalé à 2023, donc je suis profondément triste. Jeu qui est passé par Kickstarter, RPG très à l'ancienne, puisque c'est un jeu réalisé par le créateur de Suikoden, avec une partie de l'équipe des premiers Suikoden. Donc, Konami refusant de refaire des vrais Suikoden, c'est quelqu'un d'autre qui s'en charge. Et ça ressemble à une espèce de rêve éveillé quand on a revu une bande-annonce là, pendant la conférence Xbox, pour dire à quel point celle-ci était vraiment réussie, et notamment en termes de variété. On a eu quelque chose qu'on voulait, c'est-à-dire de la 2D comme était Suikoden à l'origine, mais avec
C'est beau.
ces petits éléments 3D, moteur 3D, qui font le charme notamment d'Octopath Traveler probablement du Dragon Quest 3 Remake HD qui est censé arriver bientôt, c'est-à-dire un moteur 3D qui va apporter ses effets de lumière supplémentaires, ses réverbérations en plus. Sur certains décors de Eiyuden, on a vu même que ça pouvait paraître réaliste, limite réaliste sur certains environnements. J'ai une totale confiance dans le développement, dans le style aussi du jeu. Ça manque beaucoup, les Suikoden. Des remakes, Konami pourrait nous en pondre que ça partirait comme des petits pains, mais j'ai pas l'impression qu'ils en sont conscients. Donc tant mieux. Et bon, après, l'annonce du Rising me fait ni chaud ni froid, mais on verra plus tard ce qu'il en est avec cet action RPG qui est censé être un spin-off qui arrive avant. Après tout, du côté de Bloodstained, la version 8-bit qui n'était pas forcément très attendue au départ est devenue un super jeu avec une suite d'ailleurs. Donc pourquoi pas aussi de ce côté-là. On va parler aussi maintenant de nos surprises et de nos petits coups de cœur pour cette 3. On va essayer de faire encore plus vite qu'auparavant. Je vais me tourner une fois de plus vers toi, Damien, parce que tu as le mérite de nous proposer des choses qui sont plus originales que ce que nous avons sous les yeux dans notre liste. Donc, tu vas nous parler de ta surprise de l'E3, qui est Far Changing Tides. Et qu'est-ce que c'est, non ?
Exactement. Alors, c'est une des surprises. Hein. Far Changing Tides, c'est un truc développé par un studio qui s'appelle Okomotive. C'est des Suisses qui sont à Zurich. Ils ont fait un premier qui s'appelait Lone Sail, et c'est un jeu de plateforme slash puzzle en scrolling horizontal avec une DA à tomber par terre et une BO qui claque de fou. C'est tout en dessin à l'aquarelle et c'est hyper joli, et j'avais aucune idée que ça avait suffisamment bien marché pour qu'ils en fassent un deuxième. Du coup, voilà, c'était une vraie surprise et je suis super content qu'ils en refassent un, et c'est très très bien. Et je crois que le premier, il vaut même pas 10 balles sur Steam en ce moment. Donc allez-y et allez y jouer. Et deuxième surprise, mais que je t'avais pas mis dans le fichier, c'est Plague Tale Requiem. Pareil, j'avais aucune idée que le premier avait suffisamment bien marché pour que Asobo se mette dessus. En plus, je me disais qu'ils étaient vachement occupés avec Flight Simulator, jamais ils auraient le temps de faire autre chose. Et voilà, ça aussi, c'est une super surprise, et ça aussi, je l'attends grave maintenant.
Forcément, et j'imagine que Camille voulait le mettre en troisième jeu le plus attendu, mais qu'il a pas pu, parce qu'il ne faut pas charrier. La surprise, justement, Camille, la tienne de surprise pour cette 3.
J'ai juste rajouté un mot sur Requiem aussi, parce que c'est vrai que c'était une belle surprise, même s'il avait été un peu fuité auparavant, mais voilà, c'est la BA m'a donné tout de suite envie, donc tout de suite, voilà, je sais que ça va être un jeu pour moi. Sinon, voilà, le jeu un peu aux F pour vous, mais c'est vrai que moi, Pirate Life, donc le DLC de Sea of Thieves, moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, parce que j'adore la licence Pirate des Caraïbes au cinéma, et je trouve que c'est un bon move, aussi bien en termes de gameplay qu'aussi bien marketing, d'avoir foutu Jack Sparrow dans Sea of Thieves. J'ai pu voir le contenu en plus, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, ça présage vraiment pas mal de bonnes choses pour ceux qui jouent à Sea of Thieves, qui sont nombreux, mine de rien, à y jouer encore. Donc voilà, Sea of Thieves, c'est resté à tourner en rond là, depuis quelques mois, et là, vraiment, c'est un contenu qui va changer vraiment la donne, c'est le cas de le dire, et je suis ravi.
Très bien. Rami, ta surprise.
Moi, c'est...
Qui est aussi mon coup de cœur, d'ailleurs, au passage.
J'ai vu dans la liste. Moi, c'est Replaced, hein, ça a été annoncé durant la conférence Xbox. Je peux vous dire que quand j'ai vu la bande-annonce, il s'est passé moult choses dans mon slip. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Puis ce jeu, voilà, il a une identité forte. Et puis c'est un jeu d'action rétro-futuriste, science-fiction 2,5D. Donc forcément, moi, ça me parle énormément. Puis je pense que, de ce qu'on voit à la bande-annonce avec ce héros qui est une sorte d'intelligence artificielle piégée dans un corps humain qui essaye d'exister dans cette ville un peu sale, un peu en proie à la corruption, moi, c'est quelque chose qui me parle direct.
C'est ta vie, en fait. Ça parle un peu de ta vie, tout simplement.
Ça parle de ma vie, finalement, ouais, tout simplement. Mais non, mais ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, puis la bande-annonce m'a clairement donné envie. Le seul bémol, c'est que ça soit en 2022. Donc, il faudra attendre. Mais ouais, c'est la bande-annonce, en tout cas, on voit... du lourd, comme disait Jeanne.
Je vais en parler vite fait parce que c'est mon coup de cœur de cette 3. Le truc, c'est que j'ai cru que c'était The Last Night quand il est arrivé. Toutes les personnes qui étaient en live ont pu voir que dès le départ, je me suis dit, mais c'est The Last Night, c'est pas possible. Ça y est, enfin, Tim Sorey ressort le truc. Donc, avantage, c'est que c'était pas The Last Night, mais Tim Sorey a quand même rebalancé du coup un gif de The Last Night pour montrer l'évolution dans le développement et dans le visuel. Et après, ça ressemble à un jeu d'action et de plateforme absolument sublime dans un univers cyberpunk qui a l'air lui aussi très travaillé. Maintenant, il faudra en voir un peu plus parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément d'infos sur ce jeu. On imagine que ça ne devrait pas tarder à arriver. Mais c'est le genre de... Encore une fois, c'est l'artistique qui fait tout et qui fait que on est obligé de craquer ou pas sur ce genre de choses. Thomas, ta surprise de l'E3, c'est la surprise de à peu près tout le monde.
Bah, c'était vraiment le jeu auquel on ne s'attendait pas. Je n'ai pas voulu mettre Replaced aussi pour ne pas faire trop de doublons ni redondants, mais c'est un jeu qui m'a fait un petit peu tomber de ma chaise aussi. Moi, la surprise, c'était dès le début, c'était une des premières annonces du Summer Game Fest, c'est Metal Slug Tactics, c'est-à-dire le truc qui est antinomique au possible. Tu prends un run and gun survitaminé, complètement barré, et t'en fais un jeu de tactique où il faut réfléchir à la moindre de ses actions. Et ça aurait été un studio lambda derrière, on serait peut-être inquiété, mais là, il y a les petits gars de Dotemu qui sont sur le coup. Du coup, j'ai envie de dire, ok, les gars, carte blanche. Enfin, tout ce qu'ils ont fait ces dernières années, ils l'ont transformé en or. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas avec ce nouvel épisode. Et puis, ça va peut-être contribuer à relancer un petit peu la licence dans son ensemble. Donc, hyper saucé par Metal Slug Tactics. Et j'en place une toute petite pour WarioWare Get It Together quand même, parce que moi, tu m'annonces un WarioWare, je suis refait. Ça aurait été la seule annonce du salon. Moi, j'étais content, je repartais avec un sourire aux lèvres parce que c'est une des meilleures séries du monde entier et voilà, il fallait bien le dire.
Pour la des meilleures séries du monde entier, du coup, je vais placer ma surprise qui est une des meilleures séries du monde entier aussi, c'est Metroid. Et là, c'est vraiment aussi une énorme surprise d'avoir vu le Metroid Dread revenir d'entre les morts alors qu'il était annoncé en 2005 dans mes souvenirs.
Sur DS.
Sur DS. Et que là, on se retrouve avec une bande-annonce qui commence avec Metroid 5. On voit Samus, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et tout d'un coup, en fait, on a un jeu complet avec Mercury Steam aux commandes. C'est quand même très surprenant que, en plus de Metroid Prime 4, Nintendo se soit dit, on va quand même revenir à un épisode 2D inédit au passage. Sachant que la dernière fois qu'ils ont tenté, c'était la dernière fois qu'ils ont tenté un Metroid, c'était Federation Force, et que alors, je parle d'original, hein, parce que Samus Returns évidemment, et que Federation Force c'est quand même une des pires choses qui soit jamais arrivée à Nintendo avec, je pense, Wii Music. Et voilà, que dire de plus, Metroid Dread, toi tu l'as vu Thomas, t'as eu cette chance, j'espère c'est pouvoir le prendre en main très prochainement, parce qu'en plus je me suis refait Super Metroid il y a pas très longtemps et Dieu sait que c'était encore super bon. Donc voilà, c'était pour ma surprise. Maintenant, on va passer au coup de cœur. Alors, coup de cœur, on a parlé de Replaced pour me concernant, donc je n'ai pas besoin d'en rajouter. Toi, Camille, ton coup de cœur, c'était pareil, une annonce qu'on n'attendait pas forcément aussitôt, parce que Jurassic World Evolution n'a que 3 ans, et pourtant, déjà une suite.
Ouais, tout à fait. Bah, on sent qu'il y a le Jurassic World Evolution 2 qui sortira l'année prochaine. On sent qu'il faut... passer un coup de marketing encore au niveau jeu vidéo. Moi, c'est pas pour me déplaire, j'adore Jurassic Park. Et un jeu où tu dois créer ton parc Jurassic, c'est un jeu signe direct. J'avais beaucoup apprécié le premier, même avec ses défauts. Je signe direct, surtout qu'il y a des nouveaux dinos, des nouveaux environnements, un nouveau moteur, etc. Donc, c'est quelque chose que je suis vraiment preneur, moi, des jeux de gestion en général. Et quand il y a du dino plus de la gestion, je suis encore plus preneur. Donc, ça étonnera personne.
Et Jeff Goldblum.
Et Jeff Goldblum, ouais, qui a participé directement à l'événement et qui participera dans le jeu évidemment aussi en tant que Wolf.
Donc si un jour on te propose un Two Point Dino Crisis, c'est fini. C'est Two Point Dino Crisis au Moyen Âge.
Au Moyen Âge. Dino Crisis que j'aurais bien aimé avoir à Capcom d'ailleurs.
Avec des FAMAS et des M16. Et là c'est bon.
C'est bon.
Tout terminé. Le coup de cœur de Damien, c'est un jeu indé qui a fait beaucoup parler de lui aussi par son style et son approche. Je pense que Rami a dû y être aussi très, très sensible. C'est Trek to Yomi.
Ouais, effectivement, sorti pendant le Summer Game Fest de Geoff Keighley. Hein. Moi, je trouvais que ça manquait un peu de Doritos et de Mountain Dew, tout ça. Et heureusement, j'ai pu me refaire avec Trek to Yomi, du side-scrolling en noir et blanc avec des samouraïs. Ça a l'air hyper nerveux. Ça avait un petit côté Mark of the Ninja. Et franchement, ça m'a grave saucé. D'autant plus qu'ils n'ont pas fait la même erreur que Final Fantasy. C'est-à-dire que là, c'était direct en VO en japonais. Il n'y avait pas de doublage. Enfin, c'était le doublage en sous-titré. Mais ouais, l'ambiance, elle a vachement bien. Et voilà, c'est pareil. C'est un truc qui n'avait pas fuité pour ça, au moins. Et puis que personne n'attendait. Et ça a l'air très très cool.
Et Thomas, Rami, vous partagez le même coup de cœur de cette E3, qui est, je tiens à l'ajouter au passage, le jeu le plus, on va dire, le jeu de l'E3 de nos lecteurs, avec 21% des votes en sa faveur. Il est juste devant The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, dont on n'a pas parlé, mais auquel on pense évidemment beaucoup, et juste devant Metroid Dread en troisième position. C'est Forza Horizon 5, parce qu'on le sait, Thomas et Rami, les deux, vous êtes des grands fans de bagnole.
J'ai envie de dire que, hein, ben voilà, je vais essayer de rester poli, mais on a le droit de ne pas être un gros fanat de simulation, mais justement, c'est pas mon cas. Je suis beaucoup plus typé arcade dès lors qu'on parle de jeux de course, c'est quand même vachement plus ma came. Et pourtant, pour moi, c'est le jeu next-gen, enfin new-gen, qui a mis tout le monde d'accord. On a eu en plus un petit focus de l'équipe de dev, justement, sur la manière de retranscrire les paysages du Mexique en jeu. Et on voyait la transition entre les prises de vue réelles et la manière dont ça a été intégré après au circuit, qui était vraiment à tomber par terre et à se rouler de bonheur derrière. C'est un jeu qui, très clairement, moi, m'a mis une énorme claque qui donne vraiment envie de se pencher dessus. Et je laisse un peu la parole à Rami, mais voilà, moi qui ne suis pas vraiment amateur de simulation automobile, m'y mettre en tout cas pour celui-là parce que waouh, quel baf!
Je te rejoins clairement là-dessus. Après, moi, j'avoue que j'ai hésité entre Forza Horizon 5 et Atomic Heart, mais bon, mon cœur a balancé du côté de Forza. C'est vrai qu'après un opus Forza Horizon 4 qui était vraiment très bon, je le trouvais très bon, et puis même Forza Horizon 3 qui avait atteint des sommets vraiment excellents, clairement, le Mexique, moi, ça me donnait vraiment envie. Et puis, cette variété dans les décors, toujours assez ouf. Et puis, voilà, les développeurs, comme l'a dit Thomas, ont vraiment expliqué un peu ce qu'ils ont voulu faire avec la retranscription des décors, etc. Et voilà, on se retrouve face à un jeu qui est clairement taillé pour la next-gen et qui donne clairement, voilà, qui fait office
De vitrine techno,
de
quoi.
vitrine techno, clairement, ouais, pour la Xbox, et qui donne clairement envie de se dire, bon, bah ouais, là, je vais investir pour une Xbox Series X, je suis prêt à lâcher 500 balles pour y jouer.
Et ça sera le moteur de Fable aussi.
Exactement.
C'est Playground qui s'occupe du développement de Forza Horizon 5, évidemment. Jeu qui. Enfin, si... en fait, pour moi, c'est le jeu qui a remis de la bonne humeur dans tout le 3, en fait. C'est quand il est arrivé qu'on l'a vu. Même si le streaming était franchement dégueulasse, faut le dire, tu t'arrivais à voir que ça déboîtait absolument
C'est
tout
vrai.
ce qui avait été montré auparavant. Il y a peut-être que Stalker qui était un peu, on va dire, au moins aussi réjouissant techniquement. Mais c'est vrai que lui, il a fait l'unanimité, même chez les gens qui sont pas forcément des fanats de bagnole. Et Forza Horizon, c'est pas forcément de la simu, hein, c'est vraiment le mix entre les deux et tu peux choisir de paramétrer. Comme il faut, et tu as beaucoup d'épreuves qui sont complètement délirantes. Ils ont montré d'ailleurs les épreuves des piñatas qui vont faire partie des milliers de trucs qui vont proposer les uns après les autres. Et ouais, Forza Horizon 5, va falloir faire très attention à lui parce que ça pourrait être un des gros cadors des prochains mois, sachant que le 3 et le 4 sont, on rappelait, hein, parmi, si ce n'est pas les jeux les mieux métacritiqués, les jeux de course les mieux métacritiqués de tous les temps. Donc voilà, profitons-en, ça avait l'air plutôt sympa. On va bientôt
Je veux
arriver.
juste recontextualiser, pour le
Oui.
joueur de Mario Kart, Forza Horizon, c'est déjà un peu de la simu. Voilà,
Ah
c'est tout
oui,
ce que
bien
je voulais
sûr.
dire.
Non, mais bien sûr, aucun problème. On comprend parfaitement ce que tu voulais dire. On va passer maintenant à la phase la plus intéressante de ce podcast. C'est la question, messieurs, instant solennel. On va faire le tour de table très rapide. Qui a gagné le 3? Thomas, on va commencer par toi parce que tu adores cette question.
On s'en fout.
Ok, merci.
Voilà,
Damien.
je voulais une réponse rapide.
Damien.
Ouais, forcément, je dirais Microsoft, mais en vrai, est-ce que c'est Microsoft? Non, c'est Bethesda. C'est eux qui ont sorti Starfield, c'est eux qui ont sorti la moitié des grosses annonces. C'est vrai que FH5 chez Microsoft, ça envoie aussi du lourd. Voilà, après, manquer Sony, manquer EA, c'était pas forcément la meilleure année. Mais bon, Stalker 2, c'était chez dans la conf Microsoft Bethesda, donc de toute façon, voilà, il n'y a pas de débat.
Rami.
Bah, j'hésite entre Core Media, Xbox et Bethesda, mais je vais pencher.
Core Media, t'as raison.
Non, mais je rejoins Damien. Clairement, quand tu montes du Stalker, du Forza Horizon et tout le reste, pour moi, c'est Xbox et Bethesda qui gagnent un peu par forfait, parce que bah, voilà, il n'y a pas EA, il n'y a pas Sony. Donc ouais, je penche là-dessus.
Camille.
Pareil, Microsoft, bah, pour Starfield, pour Forza, pour Stalker, bah, rien que pour ça, ça méritait le coup d'œil, et je pense que c'est clairement eux qui ont gagné GTA 3.
Ah, et le Game Pass, les enfants aussi, parce que ouais. Mine de rien, ça a été martelé sur quoi 99% des annonces et des trailers qu'on a vus pendant la conf ouais. commune Microsoft Bethesda. Mine de rien, pour ceux qui n'ont pas encore compris que c'était un modèle super intéressant, super agressif et plus si avant-gardiste que ça maintenant, parce qu'on voit vraiment le potentiel. Et là, quand ils ont balancé l'infographie de tous les jeux qui arrivaient cette année, l'année prochaine, qui seraient jouables Day One pour tous les gens qui sont abonnés, là, ils prennent une longueur d'avance assez phénoménale quand même avec ce modèle-là.
Bon. Très bien. Donc, je suis le seul à être obligé contractuellement de dire que c'est Nintendo qui a gagné le 3 comme tous les ans. Je vois qu'il y a beaucoup de solidarité au sein de ma rédaction. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Non, mais on peut dire qu'effectivement, Microsoft a fait quand même sa meilleure conférence déjà de tous les temps, et pourtant pas sur scène. Et que bah ils avaient tout pour eux pour changer et même leur one more thing qui est Redfall mine de rien je pense que ça a pas autant marqué que peut le faire un Breath of the Wild 2 ou autre, mais quand on connaît Arkane, quand on sait de quoi ils sont capables, c'est quelque chose d'assez majeur. Quand on l'aura en main, je pense qu'on comprendra vraiment jusqu'où ça peut aller. Mais oui, bon, on peut déclarer Microsoft vainqueur par KO. Alors justement, Thomas, oui, tu
veux... Avec juste un tout petit bémol, et c'est vrai qu'on en a parlé en début d'émission, mais il y a quand même un truc qui vraiment m'a chagriné dans leur conf, c'est qu'il y a un jeu que tout le monde attend depuis très longtemps, qui était censé être un peu le lance-missile pour la sortie de la Series X, c'est Halo Infinite. Le jeu, enfin, y avait quand même un enjeu autour d'Halo Infinite. La dernière fois qu'il a été montré, globalement, tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule. Du coup, il est reparti boudé pour, on l'espérait, revenir en meilleure forme. Et autant on a vu effectivement le multi, le système de Battle Pass, etc., l'écosystème assez plutôt bien pensé qu'il va y avoir dans la partie multi. Mais
ça, c'est intelligent de la part de Microsoft d'avoir fait ça, parce que le multi de Halo, depuis Halo 2, on ne le répète jamais assez, mais c'est quelque chose qui est d'une solidité à toute épreuve et qui a fait justement l'aura de Halo
tout à fait. Générale. Mais d'un autre côté, la partie solo, qui était celle qui posait problème quand même la dernière fois, n'a pas été remontrée, alors que ça aurait été justement le moment un peu rêvé pour dire « Regardez, en fait, le jeu est quand même super sexy pour tout un tas de raisons, etc. » Et on fait oublier la présentation un peu compliquée de la dernière fois. Et en plus, avec ça, alors il te faut comprendre que c'est vraiment deux entités séparées, hein, la partie multi et la partie solo. Et le pire, c'est qu'ils finissent par dire « Holiday 2021 », donc ça arrive grosso modo à la fin de l'année, mais aucune date de sortie, alors que c'est quand même leur jeu Megaton qui était attendu depuis super longtemps. Et du coup, malgré tout, malgré leur réussite, malgré tout ce qui a été mis en avant de leur côté, bah, sur le jeu le plus stratégique quand même de leur portefeuille, il y a encore tout un tas d'interrogations, et je trouve que du coup, ça envoie un signal un petit peu contrasté quelque part, parce que t'as l'impression qu'ils disent pas les choses très clairement en fait sur cette sortie majeure, et c'est quand même très dommage, je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé,
ça
mais
ça donnait l'impression qu'ils ils vont tous sortir le mode campagne et le mode multi vont sortir en même temps, mais ça donnait vraiment l'impression qu'ils ont mis le solo sous le tapis en disant bah, je sais pas, il y avait cette sensation de se poser la question de savoir est-ce qu'ils ont vraiment eu le temps de peaufiner le solo,
c'est
ou
ça.
Est-ce qu'ils n'ont tellement pas eu le temps qu'ils se disent bon, on le montre pas, tant pis, il va sortir tel quel, les gens vont se focus sur le multi, et puis tant pis, on sort séparément le mode campagne. Ça se trouve, peut-être même qu'ils vont partir dans la stratégie peut-être de repousser, enfin ça serait bizarre, mais de repousser le mode campagne et laisser le mode multi.
Ouais, mais ce serait pas étonnant, vu la com.
D'un côté, ouais, clairement, ouais. Puisqu'ils ont clairement accès sur le mode multi, ouais.
Ou peut-être qu'ils se gardent du temps pour la campagne sur le mois de juillet ou le mois d'août. Aussi, ça peut être envisageable, essayer de ne pas tout annoncer tout de suite pour justement frapper très très fort.
Ouais, mais là, c'est il y possible. Avait les projecteurs qui étaient braqués sur eux, donc c'était quand même un moment assez opportun, je trouve.
Bah, c'est vrai qu'on passe de...
Il y avait d'autres jeux.
Oui, il y avait d'autres jeux, c'est sûr. Mais celui-là a une importance toute particulière quand même.
Bah, c'est ça, on passe de fer de lance de la série X à on passe un peu sous le tapis très rapidement, on montre un mode multi et puis voilà. Quoi.
Bon, on va porter une conclusion donc à ce podcast pour savoir si c'était une bonne semaine de 3 ou si, comme le souhaite visiblement assez vivement Jeff Keighley et la plupart des gens qui sont dans son annuaire, et qui l'exprime assez bien, hein. Sean Layden, par exemple, a l'air de ne pas avoir de problème à dire que le 3 est un événement du passé. Est-ce que c'était malgré tout une bonne semaine de 3? Et est-ce que après cette 3, vous vous dites non, mais le 3, il faut que ça meure? Thomas, on va commencer par
moi. Ah bah alors vous n'avez pas de bol, parce que moi, je trouve que quasiment tous les confrères que j'ai pu lire ont été très, très durs avec cette édition. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même eu des jeux intéressants et surtout des sorties, des promesses de sorties là dans les mois qui viennent, des trucs tangibles, des jeux qui m'ont donné envie. On n'a pas parlé du Wholesome Direct, mais il y a eu tout un tas de jeux indés absolument délicieux qui ont été montrés, qui donnent super envie, qui changeaient, qui apportaient un petit peu d'oxygène au milieu de tout ce pam-pam boum-boum, pour le résumer un peu trop rapidement et de manière un peu cliché, mais quand même. Et puis, je veux dire, on l'a dit à un moment donné, faut recontextualiser un petit peu tout ça. On commence timidement à peut-être sortir de cette foutue pandémie. Ça a été compliqué pour tous les studios. On est assez critique de ces méthodes dégueulasses du crunch qui mettent les développeurs sous pression un petit peu tout le temps pour rendre absolument leur jeu et tenir le planning qui avait été établi au début. Et je trouve que c'était une édition où on se pose un petit peu. On sait qu'on est sur une période vraiment, on passe d'une génération à une autre très doucement, beaucoup plus doucement et progressivement que d'habitude. Et bah forcément, ça se ressent. Quand on cumule tout ça, je ne sais pas à quoi les joueurs les plus exigeants pouvaient s'attendre, mais d'avance, c'était difficile de miser sur une édition où on allait voir du mégaton, du triple A dans tous les sens. Et à la limite, si c'est pour avoir des promesses de « ce jeu-là arrive, ah ouais, mais en fait, le développement commence et finalement, vous y jouerez dans 4-5 ans », est-ce que c'est vraiment le plus intéressant? Je ne suis pas sûr. De toute façon, pour les constructeurs, déjà Sony n'était pas là, mais même Microsoft, les consoles sont tellement difficiles pour l'instant à écouler que est-ce que ça valait vraiment le coup d'envoyer du rêve à moyen terme sur les prochaines années? Est-ce qu'il ne valait pas mieux se focaliser véritablement sur ce qui sort là dans les prochains mois jusqu'à la fin de l'année et à la limite premier trimestre 2022, je pense que oui, et c'est ce qui a été fait du coup, et pour moi c'était une édition qui était intéressante, sans doute pas la plus mémorable, mais au vu de tout ce qui s'est passé, les éditeurs ont dû s'organiser dans leur coin, etc., c'était finalement satisfaisant, je trouve, sur le quand on reprend toutes les annonces qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de diversité, des vraies dates de sortie et des surprises en début de gêne, voilà. Donc, je ne sais pas forcément ce que les gens s'imaginaient et imaginent pouvoir proposer dans une période comme celle-ci, mais moi, j'ai trouvé que c'était un E3 tout à fait correct.
Quelqu'un va dans le même sens que Thomas parmi vous? Ah, Rami.
Ah, merci, Rami.
Moi, je vais dans le sens de Thomas, clairement. On est sur une édition qui est satisfaisante, où on a des jeux qui vont sortir dans un horizon très proche, jusqu'à 2022. Et de toute façon, oui, on est clairement dans une pandémie, donc on ne pouvait pas s'attendre non plus à une édition exubérante avec une pelletée de jeux qui allaient sortir dans 4-5 ans. Là, c'est une édition que je qualifierais de réaliste, avec voilà, des jeux auxquels on va pouvoir toucher très rapidement ou dans quelques mois. Donc clairement, ouais, je rejoins Thomas là-dessus. C'est une édition qui est clairement satisfaisante, sans être non plus folle comme on a pu le connaître ces dernières années. Mais je préfère savoir que je vais pouvoir jouer rapidement à ces jeux plutôt qu'à une édition ou une conférence où on va me dire que voilà, des jeux qui arrivent dans un horizon de 5 à 6 ans. Quoi.
Rendez-vous 2025.
Exactement.
Damien.
Ouais, je rejoins en partie Thomas sur effectivement le fait que voilà, c'est une année de transition et que bah voilà, il pouvait pas faire. Il n'y avait pas de magie à attendre, effectivement. Il y avait le contexte qui était compliqué. D'un autre côté, c'est vrai que c'était pas dingue. Tous les E3 n'ont pas été dingues. Hein. Si on revient par le passé, il y a eu des éditions merdiques alors qu'on était là, qu'on avait des confs et du spectacle. Donc ça, après, de toute façon, c'est aussi conjoncturel, c'est le cycle de vie des consoles. Voilà. Moi, je trouve quand même que ça manquait de quelque chose qui fasse rêver. Même si c'est un truc qui va sortir dans 5 ou 6 ans, avoir une annonce, enfin, je veux voir le futur du jeu vidéo, quoi. Je veux voir un truc qui m'arrache la rétine et qui me donne envie d'attendre les 3-4 années s'il le faut. Mais voilà, je veux qu'on me vende du rêve. C'est aussi ça que je trouve qui est important dans l'E3. Effectivement, avoir des propositions réalistes, des jeux qui vont sortir bientôt, c'est effectivement aussi important parce que bah, voilà, j'ai envie de voir les prochains jeux auxquels je vais pouvoir jouer. Mais vraiment, avoir une partie de rêve, c'est quand même quelque chose qui est important. Surtout en ce moment, ça fait un an et demi qu'on est chez nous. Le plus grand rêve qu'on ait eu sur un an et demi, c'est de recevoir une injection intramusculaire. Du coup, là, franchement, je trouve qu'on a besoin de rêver. Et voilà, l'an dernier, on avait franchement la démo de chez Unreal avec l'Unreal Engine qui était à couper le souffle. Moi, c'est le genre de truc comme ça que j'ai envie de voir, mais appliqué sur un jeu qui va sortir, qu'on puisse me dire, bah, regarde, voilà, c'est 4 frames, mais dans 5 ans, tu vas t'en prendre plein la tronche. Je trouve que c'est ça qui manquait cette année.
C'est le côté rêve de l'E3, c'est son rôle en fait. On peut dire que c'est le rôle de l'E3 de faire rêver avant toute chose, avant de dire il y a des dates de sortie, il y a des machins. Regarde, c'est plutôt la démonstration technologique ou autre.
Pourquoi ? C'est ce côté-là, je trouve, qui était complètement absent cette année et qui aurait quand même dû être là.
Et Camille, donc
effectivement, c'est pas une édition qui a fait vraiment rêver. On a eu besoin un peu plus de rêve que ça, mais je pense pas qu'il faut exécuter l'E3. Je pense que c'est quand même un salon qui mérite sa place, qui est un grand maître du jeu vidéo, qui est attendu par les gens malgré tout, qui est dans l'esprit des gens comme un grand salon pour le grand public et qui a toute sa place, même si cette édition était particulière à cause des événements qu'on connaît. Je pense qu'il y a moyen de, petit à petit, les années futures, revenir sur une édition un peu plus classique avec des annonces intéressantes, surtout qu'après on sera encore plus plongé dans la next-gen et je pense que ce sera le bon moment de remettre un coup et de remettre l'E3 au bout du jour. Mais non, je pense pas qu'il faut mettre à bas l'E3, au contraire, je pense qu'il fallait elle a eu deux ans de mou où voilà, on ne savait pas trop quoi en faire, mais je pense que ce salon a toute sa place pour les années futures, quoi.
Ouais, donc si je vous dis que ça ne sert à rien de... Enfin, c'est peut-être pas une... la voix que Jeff Keighley essaye d'imprimer, à savoir non, mais venez chez moi, c'est moi qui suis le grand patron du jeu vidéo aujourd'hui, oubliez le salon, oubliez le SA et tout, c'est le genre de choses qui vaut mieux oublier.
Il peut le dire, mais ça rend pas la chose véritable pour autant. Enfin, après, c'est un mec qui fait de la com et qui prêche aussi pour sa propre paroisse. Donc, il faut faire le tri aussi là-dedans. Et en attendant le Summer Game Fest, c'est très bien, c'est très intéressant. Mais derrière, en termes de prise en main, ben, walou. Et moi, c'est ce que j'attends aussi un peu d'un salon comme celui-là, c'est de mettre les mains sur les jeux, de discuter avec les devs, de voir ce qu'il y a derrière, l'intention, etc. Et de vraiment sentir ce qui va arriver, parce que bon, bah là,
les mains dans le cambouis.
Ouais, les mains dans le cambouis. Là, on a eu plein de belles promesses, on a eu plein de beaux trailers. On a parlé effectivement de Replay, ce qui est absolument magnifique, mais peut-être qu'en termes de prise en main, ce ne sera pas forcément la même chose. On parlait de Sable, toi et moi, Plume, un petit peu avant. Visuellement, et une fois que tu le prends en main, ce n'est pas tout à fait non plus le même discours. Donc, il a manqué cette partie-là. Donc, le Summer Game Fest, ça peut être un truc alternatif qui peut exister en parallèle, mais de là à imaginer que ça soit l'événement qui torpille le salon, vraiment, j'en suis pas sûr, parce que Geoff Keighley a peut-être un carnet d'adresses, un réseau et des arguments à faire valoir. Les éditeurs, à un moment donné, ils vont aussi vers ce qui fonctionne bien. Si le salon continue à attirer du monde et à braquer les projecteurs sur ce que l'industrie a à proposer, à un moment donné, ils rentreront au bercail, mais peut-être que le SA va devoir aussi mettre un petit peu d'eau dans son vin et... par exemple, peut-être diminuer les tarifs ou les conditions d'entrée pour avoir un stand sur le show floor, ce qui serait une très bonne chose.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose pour la conclusion ? Tout est bon pour tout le monde ? Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie, que ce soit Thomas, Damien, Rami, Camille et Poufi, évidemment.
Merci à vous.
Au pouffage dans notre casque. Merci une fois de plus à vous tous, nos chers auditeurs et spectateurs, d'avoir suivi cette saison, parce que oui, ça y est, la saison des podcasts de Gameblog est terminée. On va pouvoir un peu recharger les batteries cet été. Peut-être qu'il y aura des épisodes spéciaux, je ne sais pas encore. Après, on a d'autres problèmes à régler à la rédaction. On va essayer de revenir le plus frais possible à la rentrée. En tout cas, on est toujours aussi ravis de vous retrouver chaque semaine pour pouvoir parler de jeux vidéo. Donc, normalement, tout devrait bien se passer. Mais on ne sait pas encore dans quelles conditions. Parce que est-ce qu'on aura encore le masque ? Est-ce qu'on sera encore à la rédac? Est-ce qu'on sera chacun à domicile pour faire les podcasts? Ce sera la grande question. Normalement, si tout se passe bien, on devrait retourner dans nos locaux et ce sera beaucoup plus convivial. Vous aurez un bien meilleur son. Vous n'aurez pas de bruit de perceuse. Vous n'aurez pas des personnes qui disparaissent pendant qu'elles parlent ou qui frisent. Bref, ça devrait être bien mieux. Voilà, c'est la fin de la saison. On se retrouve donc eh bien, à la rentrée pour de nouveaux podcasts. Et d'ici là, on espère que bah, vous allez tout simplement faire attention à vous. Bisous, bisous.
À bientôt. Bon bisous.
Ciao.
Merci.